Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
C'est sans doute l'histoire criminelle la plus célèbre du XXe siècle. L'affaire Ranucci, sur laquelle vous avez peut-être une opinion d'ailleurs. Vous pensez qu'il était innocent, et dès lors vous appelez cette affaire l'affaire du pullover rouge. Moi, fidèle à ma ligne, je n'ai pas d'opinion. Je vais juste vous expliquer pourquoi et comment il a été condamné à mort. Et pour le débrief tout à l'heure, je ferai appel à l'un des témoins directs de cette histoire, le correspondant d'Europe 1 à Marseille à l'époque, Roger Hardouin. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le lundi de Pentecôte 1974, vers 11h du matin, dans une cité HLM de Marseille, la cité Sainte-Agnès, deux enfants, un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Jean-Baptiste et sa sœur de 8 ans, Marie Dolores, sont en train de jouer dehors, en bas de chez eux. La mère régulièrement jette un coup d'œil par la fenêtre de sa cuisine. Et puis à un moment, vers 11h20, elle ne voit plus que son fils. Alors elle se penche à la fenêtre.
Jean-Baptiste, elle est où ta sœur? Elle est partie avec un monsieur qui avait perdu son chien noir pour l'aider à le retrouver.
Les parents se précipitent en bas de l'immeuble. Ils font le tour de la cité à la recherche de leur fille. Ils ne la trouvent pas. Et pas non plus d'homme au chien.
Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, monsieur? Pourquoi tu n'es pas allé avec eux? Il m'a dit, je reste de ce côté avec ta grande sœur, et toi tu vas faire le tour par l'autre côté de l'immeuble pour chercher le chien, et puis on se retrouvera ici.
Il n'a fait qu'obéir, le pauvre. C'est un petit garçon qui n'a même pas 7 ans. Il n'a fait qu'obéir. Alors les parents foncent au commissariat, ils signalent la disparition de leur petite fille de 8 ans, Marie Dolores. Et cette disparition, honnêtement, ressemble à un enlèvement. À ce stade, le petit Jean-Baptiste Rambla est le seul témoin de la disparition de sa petite sœur.
Un monsieur est arrivé avec une voiture, il m'a appelé avec ma sœur. Après il a dit que... Il a dit que je cherche le chien.
Il avait perdu son chien?
Oui. Après, il a dit que je passe par là-bas et ma sœur le reste là.
Et alors, tu es parti chercher le chien?
Oui.
Et ta sœur est restée avec le monsieur?
Oui.
Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là et ta grande sœur non plus?
Non.
Et les policiers demandent au gamin, à quoi il ressemblait, ce monsieur? Il répond qu'il était jeune, qu'il avait des cheveux noirs, qu'il était grand, qu'il portait un costume gris et qu'il parlait comme les gens d'ici. Et après, les policiers lui demandent « Et la voiture? Qu'est-ce qu'il avait comme voiture, ce monsieur ?»
Ben, c'était une Simca 1100, gris métallisé.
Et là, je m'arrête 2 secondes, parce que c'est l'une des clés de ce dossier. Est-ce qu'on peut faire confiance à un gamin de même pas 7 ans? Est-ce qu'on peut être certain que c'était une Simca 1100. Les policiers demandent à Jean-Baptiste de désigner une voiture du même modèle parmi les voitures garées en bas de son HLM. Il désigne une voiture de police qui est effectivement une Simca 1100. À peu près au même moment, se déroule un autre événement d'apparence beaucoup plus anodin. Un accident de voiture à 20 km de Marseille. Vincent Martinez roule tranquillement en direction de Toulon et soudain, au carrefour dit de la Pomme, une voiture grille en stop et vient le percuter par la gauche. Il fait un tête-à-queue et le chauffard s'enfuit. Heureusement, un couple qui arrive juste derrière a tout vu. Ils s'appellent Aline et Alain Aubert. Ils ont vu l'accident et ils se lancent à la poursuite de la voiture, un coupé 304 Peugeot bleu. Et 1 kilomètre plus loin, il voit la voiture arrêtée au bord de la route. Et il voit surtout le chauffard qui s'enfuit à pied, qui grimpe un talus au-dessus de la route et qui s'enfonce dans la végétation. Alain Aubert lui crie
« Revenez! Revenez, vous n'avez aucune raison de vous cacher! Il n'y a que de la tôle froissée !»
Mais le type ne répond pas et il disparaît. Les Aubert notent le numéro d'immatriculation de sa voiture, 1369 SG06, et ils font demi-tour jusqu'au carrefour de la Pomme pour aller donner le numéro à Vincent Martinez, l'automobiliste accidenté, lequel va tout de suite porter plainte à la gendarmerie.
Dites-moi, monsieur, il était tout seul, là, ce monsieur dans sa voiture? Ah oui, oui, il était seul.
Quelques minutes plus tard, toujours dans le même coin, un fermier, monsieur Guazzone, voit arriver un homme à pied.
Bonjour, monsieur. J'ai eu un problème avec ma voiture, là. J'étais en train de pique-niquer près de l'entrée de la champignonnière. Et puis j'ai pas serré le frein à main. Ma voiture a glissé dans la galerie. Et maintenant, j'arrive plus à la sortir. Je me suis embourbé, quoi. Vous pourriez venir m'aider à la sortir avec votre tracteur?
Le paysan dira qu'il n'a pas vraiment cru à son histoire. Que la voiture n'a pas pu rentrer comme ça dans ce tunnel. Mais bon, il y va avec son tracteur. Et il note que la voiture, un coupé 304 Peugeot, a reçu un choc à l'avant droit. Et il le sort de là. Mais qu'est-ce que faisait ce type dans cette champignonnière, seul? Le surlendemain, Vincent Martinez, vous savez, l'automobiliste accidenté, découvre l'enlèvement de la petite fille en lisant le journal. Et il fait tout de suite le lien avec la voiture qui l'a percuté. Il se dit, c'est pour ça qu'il s'est enfui, parce qu'il venait d'enlever la petite fille. Sauf que la veille, quand il a porté plainte, il a dit que l'homme était seul. Et donc il rappelle les gendarmes.
Dites, oui, j'aimerais modifier ma déposition. Oui, voilà, je voudrais ajouter qu'un enfant a pu se trouver à bord. Voilà. Merci, hein.
Le problème, c'est que les deux témoins de l'accident, les Aubert, eux non plus, n'ont pas parlé de quelqu'un d'autre. Interrogés la veille par les gendarmes après l'accident, ils n'ont parlé que du conducteur. Et donc, eux aussi, modifient leur déposition.
Quand il est descendu de la voiture pour grimper sur le talus, il tenait quelque chose dans les mains. Je dirais un paquet, peut-être, oui. Gros. Volumineux.
En attendant, pour les policiers qui manquaient de pistes, en voilà une belle. Et donc ils vont là où le couple Aubert a vu cet homme grimper au talus, ils fouillent les abords, et au bout de 2 heures, sous les broussailles, ils tombent sur le corps d'une petite fille. Un petit corps lardé de coups de couteau. Pour l'identifier, ils font venir sur place le père Rambla. Au hurlement qu'il pousse, ils comprennent que c'est elle. Évidemment, les policiers quadrillent toute la zone alentour, ils cherchent des indices. Et à un moment donc, ils entrent dans la champignonnière, une sorte de tunnel qui s'enfonce dans la colline. Et au fond de la galerie, parmi d'autres objets qui jonchent le sol, il tombe sur un pullover rouge. Il n'a pas l'air d'être là depuis longtemps, il n'est pas humide, il n'est pas moisi. Et donc les policiers le ramassent et décident de le joindre à la procédure. C'est le premier objet saisi dans le cadre de cette enquête. Il devient donc le scellé numéro 1. À ce stade, en vérité, rien ne relie ce pullover à la mort de la petite. La champignonnière est, paraît-il, fréquentée par des couples qui se donnent du plaisir. C'est peut-être juste un oubli, un amant fougueux qui s'est déshabillé et pas rhabillé entièrement. Mais les policiers donnent ce pull à sentir à un chien renifleur. Et ce chien les traîne jusqu'à 30 mètres de l'endroit où était le corps. Notez que le chien ne va pas jusqu'au corps. 30 mètres, c'est tout près, mais ça n'est pas à côté non plus. Et donc, il y a peut-être un rapport entre le pull et le meurtre. Peut-être. Et maintenant, il y a un suspect qui s'impose. le propriétaire de la voiture. Les Aubert ont noté le numéro du coupé Peugeot 304, 1369-SG-06. Alors les policiers filent à la préfecture fouiller dans les fichiers d'immatriculation. La voiture appartient à un certain Christian Ranucci, 20 ans, représentant de commerce et qui vit à Nice, chez sa mère, où il est arrêté sur le champ. Christian Ranucci est interrogé toute la soirée et toute la nuit. 20 ans, il va forcément craquer.
L'accident, le délai de fuite, tout ça, oui. Oui, je reconnais, c'est moi. Mais le meurtre de la petite, non. Je vous jure que c'est pas moi.
C'est un coriace. La garde à vue s'écoule, il ne lâche rien. Au petit matin, pour tenter de débloquer la situation, les policiers décident de confronter Ranucci au couple Aubert. Avant d'assister au face-à-face déterminant entre les témoins de l'accident et Christian Ranucci, il faut quand même que je vous prévienne qu'à ce moment-là, les Aubert ont encore modifié leur témoignage. Vous vous souvenez qu'après l'accident, ils n'avaient vu qu'un homme quitter sa voiture et s'enfuir. Et qu'ensuite, ils avaient rajouté qu'il avait un paquet dans la main. Et bien maintenant, le paquet, ça leur est revenu, c'était un enfant. Un enfant avec un short ou une culotte blanche. Témoin à la noix, oui. Du genre qui vous pourrisse un dossier. Pour commencer, Christian Ranucci est présenté à Aline et Alain Aubert derrière une vitre sans teint. Au milieu de policiers du même âge. On appelle ça un tapissage. Eh bien, ils ne le reconnaissent pas. Certes, ils l'ont vu de loin, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ensuite, on les met face à Ranucci, qui vient d'essuyer une nuit de garde à vue. Le face-à-face dure 4 heures. Et à un moment, Madame Aubert craque.
« Je vous ai vu, monsieur! Je vous ai vu! C'est vous !»
Et là, Ranucci vacille. Il baisse les yeux. Et il avoue. Il a enlevé et tué Marie-Dolores Rambla. Pour la police, c'est bouclé.
Après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. Les mobiles profonds, nous avons l'impression qu'il les cache actuellement parce que certainement il éprouve un sentiment de pudeur, n'est-ce pas? Il déclare qu'il avait enlevé la petite fille, mais qu'il avait l'intention de la ramener à la maison et qu'en réalité, étant poursuivi par l'automobiliste dans les conditions que je vous ai indiquées, il a perdu la tête et il a tué la petite fille parce qu'il craignait que les gens qui le poursuivent ne puissent l'accuser d'avoir entraîné la petite fille dans la colline pour la violer, ce qui, selon lui, n'était pas le cas. La fillette n'a absolument pas été violée, elle a simplement été tuée de plusieurs coups de couteau et l'autopsie qui a été pratiquée ce matin est véritablement catégorique à ce sujet.
Et l'arme du crime, alors, monsieur Ranucci, où est-ce que vous l'avez mise? Je l'ai mise dans un tas de fumier, à côté de la champignonnière. On va sur place avec un détecteur, une poêle à frire. Et au bout de 2 heures, on retrouve le couteau dans un tas de tourbe. Ça va peser lourd, ça. Très lourd. Même s'il a fallu 2 heures pour le trouver, le couteau était là où il l'a dit. Le 18 juin, Christian Ranucci adresse un premier courrier à sa mère.
« Maman chérie, toute cette affaire était déjà écrite. Tout s'est déroulé sans que toi ni moi n'y puisseriez. Il aurait suffi d'un clou sur la route, j'aurais crevé un pneu, et le stop, l'accident et ses conséquences n'auraient pas existé. » Ne cherche pas à te reprocher quoi que ce soit, ou que je cherche, notre vie, mon éducation, tout, absolument tout, était parfait.
Figurez-vous que c'est le correspondant d'Europe 1 à Marseille à l'époque, Roger Hardouin, qui trouve à la maman de Christian Ranucci un avocat. L'un des meilleurs du coin, Paul Lombard. Lequel Lombard confie le dossier à un bleu de son cabinet pour qu'il se fasse les dents. Jean-François le forçonné, 25 ans, qui commence par aller voir Ranucci à la célèbre prison des Baumettes.
Dites-moi, Ranucci, c'est vous qui l'avez tué, cette petite ?
C'est obligatoire, même moi !
Et là, le jeune le forçonné plonge dans le dossier, et il tombe sur un certain nombre d'incohérences qui lui font penser que ce type a peut-être avoué un crime qu'il n'a pas commis. Premier point litigieux, la voiture. Le frère de Marie-Dolorès, pas tout à fait 7 ans, a toujours parlé d'une Simca 1100 gris métal. Or, la voiture de Ranucci est un coupé 304 Peugeot bleu clair. Alors on lui montre une Peugeot, et on lui demande « t'es sûr ?» Eh ben, il est sûr. Il est sûr que ça n'était pas une Peugeot. Mais finalement, il n'y a pas que lui qui a vu la voiture. Un garagiste qui a son atelier tout près des lieux de l'enlèvement l'a vu aussi. Il a vu la petite monter dedans.
Ah, c'était une Simca 1100 grise, hein ? Ça, je suis sûr et certain.
Alors un enfant de 7 ans peut se tromper, mais un garagiste sur une voiture. Cela dit, amusez-vous à aller comparer sur Internet, les deux voitures se ressemblent. Même ligne, à part les phares, qui sont ronds chez Simca et rectangles chez Peugeot. Ils sont donc deux à l'avoir vu. Le petit Jean-Baptiste et le garagiste. On présente Ranucci aux deux.
Alors, gamin, tu le reconnais, le monsieur ?
Ah non, non, pas du tout.
Et vous, monsieur ? Vous le reconnaissez ?
Ah non, ah non, c'est pas lui, je le reconnais pas, hein.
Troublant, ils l'ont vu de près. La juge décide 3 semaines après d'organiser une reconstitution, sur place. Une reconstitution qui commence par le moment où Ranucci, qui vient d'avoir son accident, sort de sa voiture avec ce paquet devenu une petite fille et grimpe sur le talus. Et d'entrée, on tombe sur un hic, sans s'y attarder, hein. Je m'y attarde moi parce que ça m'intrigue, et pas que moi. Comment Ranucci est-il descendu de sa voiture ?
Monsieur et Madame Aubert, s'il vous plaît, dites-nous par quelle porte est sorti l'homme que vous avez vu. Eh bien, par la portière conducteur, hein, c'est ça, chérie ? Oui, par la portière conducteur.
Or, ça n'est pas possible. Elle est coincée, la portière, par l'accident. Mais la juge s'en fiche.
Bon, bien, écoutez, d'accord, on va pas passer des heures là-dessus, hein. Allons tout de suite à l'essentiel, on va aller sur place. Bien. Ranucci, où l'avez-vous tué ? Est-ce que vous pouvez refaire le geste ?
Non ! Non, non, non ! Je ne peux pas refaire ça ! Je ne me souviens pas, là. Je me souviens pas.
À ce moment-là, la juge, hors d'elle, attrape les photos du cadavre.
Regardez ça, Ranucci ! Ça ! Hein ? Vous vous en souvenez de ça ?
Elle lui colle les photos sous le nez. Et l'autre fait une crise de nerfs. On dirait qu'il est amnésique. Il dit qu'il ne se souvient de rien. Sans pour autant dire qu'il est innocent. Jamais. L'instruction est bouclée en un an.
Ma petite maman, j'ai l'impression d'être tombé dans un piège. La manière dont l'instruction a été faite était le ressort qui a fermé le piège. J'ai tiré le gros lot du malheur, sans même avoir acheté un billet.
« Jusque-là, maître Paul Lombard, ténor du barreau de Marseille, avait laissé le jeune Le Forcené à la manœuvre. Mais à l'approche du procès, il monte en première ligne. Il sait qu'il a l'opinion contre lui. Alors il veut tenter au moins de se mettre la presse dans la poche. Il organise donc un dîner chez lui, où il invite 7 ou 8 journalistes, dont bien sûr Roger Hardouin, d'Europe 1.
Moi, que les choses soient très claires, j'ai l'intention de plaider l'innocence. Enfin, j'ai suffisamment dans le dossier pour penser que Ranucci est innocent. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Paul, ça me paraît hasardeux quand même, hein? Il y a beaucoup de choses qu'il accuse, quoi, quand même, hein? Il a raison. C'est une mauvaise idée. Enfin, bats-toi contre la peine de mort, Paul. C'est ta seule chance.
Mais Paul Lombard ne changera pas d'avis. Lui et Le Forcené plaideront l'innocence. Ce que d'ailleurs leur demande Ranucci lui-même. Parce que lui aussi maintenant, il dit qu'il est innocent. 100% innocent. Quand on connaît la fin de l'histoire, évidemment, c'est une folie. Mais pour l'instant, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Le dossier est branlant. Il est bourré de failles. Les avocats y croient. Le procès s'ouvre le 9 mai 1976 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, franchement, on mettrait 2 ou 3 semaines à juger Ranucci. On va le faire en 2 jours. 2 jours. Pendant lesquels le palais de justice va rester sous pression de la foule qui crie « À mort ! À mort !» Christian Ranucci entre dans le box.
Taille moyenne, complet bleu clair. Polo blanc à col roulé orné d'un crucifix en or. Petit visage étroit bien dessiné. Cheveux châtain tel apparaît Christian Ranucci, 22 ans. Il fait penser à quelque futile oisillon.
Il fait tout de suite mauvaise impression. Il est trop bien habillé, il est trop dandy. Et ensuite il est buté, la tête tout le temps baissée à prendre des notes. Et puis, les témoins défilent à la barre. Vincent Martinez, avec lequel il a eu l'accident. Les Aubert, très accusateurs. Et enfin, le commissaire Alessandra, qui a dirigé l'enquête. Et là, Ranucci s'emballe.
« Vous m'avez extorqué les aveux, monsieur, à me passer à tabac. C'est faux. Vous m'avez donné des coups de matraque. C'est faux, Ranucci. Vous êtes un monstre. »
Christian Ranucci, dans l'ensemble, se défend mal.
« Que diriez-vous de la jeune Marie Dolores, monsieur Ranucci ?»
Je dirais que nos routes se sont croisées. Je la connaissais pas, je n'y peux rien.
Il est arrogant, entêté, agressif. À un moment, la défense abat sa carte maîtresse. Une certaine Madame Mattei qui vient à la barre.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, madame, ce dont vous avez été témoin quelques jours avant le drame qui a emporté la jeune Marie Dolores?
Oui. Voilà, on habite une cité de Marseille. Et ma fille jouait dehors avec une copine, et là, un homme dans une voiture qui portait un pullover rouge, je précise, est venu leur parler pour leur dire qu'il avait perdu son chien et leur demander de l'aide pour le retrouver.
Quelle était la marque de la voiture, madame?
C'était une Simca. Une Simca 1100.
Bim! Parce qu'il est démontré que Ranucci n'était pas à Marseille, ce jour-là. Sauf que l'avocat de la famille Rambla, maître Gilbert Collard, ne se laisse pas faire.
Madame, pouvez-vous nous donner le nom de la camarade qui jouait avec votre fille ce jour-là?
Elle est incapable de donner le nom. et du coup, elle passe pour une menteuse. Maître Collard, avocat des parties civiles, est le premier à plaider. Il ne réclame pas la peine de mort. Les Ramblas sont contre.
Je dirais au contraire. Hein? Qu'il reste vivant. Et que, d'une certaine manière, Marie Dolorès reste vivante elle aussi dans les remords de quelqu'un.
Et puis l'avocat général, Armand Viala, se lève. Et il requiert la mort.
Vous m'effrayez, Ranucci, dit l'avocat général. Vous m'effrayez parce que vous ne dites rien. Vous ne vous libérez pas, mais parlez donc. Moi, je pense à ce père qui a vu le corps de sa fillette, Marie Dolorès. Vous savez, Ranucci, elle est là, près de moi, elle vous regarde. Dieu vous assiste, Ranucci, parce que vous êtes au-delà de la pitié des hommes.
Et juste après, c'est à maître Lombard de plaider l'innocence, donc.
N'écoutez pas la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Je plaide non coupable. Je dis qu'au moment où il a avoué, Christian Ranucci n'était pas en possession de toutes ses facultés. Allez-vous condamner sur la foi d'un dossier en plâtre? Je ne suis pas du côté des assassins, mais je ne suis pas non plus du côté de l'erreur judiciaire. Acquittez Christian Ranucci, mesdames et messieurs. Le sang se lave avec les larmes, pas avec le sang. Tant que la peine de mort existera, la nuit, règnera sur les cours d'assises.
Les jurés mettent 2 heures à délibérer. 8 hommes et 1 femme. Et le verdict tombe à 20h30.
Accusé, levez-vous, je vous prie. À la question « Christian Ranucci est-il coupable ?» Les jurés dans leur majorité ont répondu « oui ». À la question « Christian Ranucci a-t-il des circonstances atténuantes ?» Les jurés dans leur majorité ont répondu « non ». La cour et les jurés vous condamnent à la peine de mort.
Il a accueilli ce verdict sans mot dire. Ranucci a été condamné à mort. L'opinion publique est satisfaite. La question est de savoir si la justice a été normalement rendue.
Maman, chérie, je ne comprends toujours pas pourquoi ils m'ont condamné. Ils m'avaient l'air d'être des gens sensés. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à me condamner en faisant abstraction des témoignages. Ces avocats se pourvoient en cassation. Rejetés. Il n'y a plus qu'un espoir. La grâce présidentielle. Giscard est un président moderne. Il a dit plusieurs fois qu'il était opposé à la peine de mort. Maître Lombard est reçu à l'Élysée en tête à tête par le président. Et quand il sort de son bureau, il est à peu près sûr de l'avoir convaincu. Sauf que le jour même, un petit garçon, Vincent, est enlevé à son tour à Marseille et retrouvé mort. À ses obsèques, les gens réclament la guillotine. Alors Giscard n'aura pas le courage. Christian Ranucci est emmené à la guillotine le lendemain matin, 28 juillet, à l'aube. Il lit une dernière lettre de sa mère. On lui offre une dernière cigarette. Il la fume. On lui offre un verre d'alcool. Il le refuse. Et il refuse aussi le prêtre. On le ficelle, on le porte au pied de la guillotine, on le plaque sur une planche en bois, et la lame tombe. Et après, on passe le jet d'eau. qui donnait le dernier mot? À Monsieur Rambla, le père de Marie Dolores?
Maintenant, nous savons que la petite a été vengée. Vous voyez, c'est pas une veillance que moi je demandais. La única chose que moi je mon cœur, maintenant je sais que ce salopat ne fera pas de mal à autre personne comme mon fils. Alors, je suis catholique, mais dans les cas comme ça, même les catholiques, sont pour la peine de mort dans les cas comme ça. Les enfants sont sacrés. Alors, s'il en coupe la tronche, tant pis pour lui. Et moi je remercie beaucoup le président de la République.
Donnons plutôt le dernier mot à Maître Paul Lombard.
Je peux vous dire que j'ai vécu ce matin la journée la plus atroce de ma vie. Cette journée ne ressemble à rien de ce que j'avais connu jusqu'alors. C'est la première fois que je vois un homme mourir. La loi m'interdit de vous parler de cette exécution. Laissez-moi vous dire cependant que les instants que j'ai vécus m'acculent, remplissent de honte et d'effroi. Je crois que la civilisation n'a rien à gagner à employer les armes de la barbarie. Je souhaite, du fond de mon âme, que la peine de mort soit supprimée. La peine de mort remplit ceux qui assistent d'effroi et de honte. Je souhaite simplement que l'exécution de Christian Ranucci soit la dernière.
Voilà donc pour cette histoire, et je veux préciser que la plaidoirie de Paul Lombard est extraite du livre Plaidoirie de Mathieu Aron, qui a reconstitué quelques-unes des grandes plaidoiries du XXe siècle. Pour débriefer cette histoire, assez naturellement, je me suis tourné vers l'un des rares témoins directs encore vivants aujourd'hui de cette affaire. Je suis avec Roger Hardouin, qui était à l'époque le correspondant d'Europe 1. C'est vous qui avez réalisé la plupart des interviews que j'ai diffusées dans mon récit, Roger. Est-ce que je peux dire que c'est la plus grande affaire de votre carrière?
Absolument. Absolument, c'est celle qui m'a le plus marqué depuis 50 ans, quoi.
C'est vous, c'est incroyable, qui trouvez l'avocat de Christian Ranucci. C'est vous qui trouvez Lombard.
Ah oui, c'est mon plus grand regret. Effectivement, lorsque Madame Maton, puisque c'était le nom de la maman de Christian Ranucci, était à l'hôtel de police interrogée et qu'on lui a dit que son fils avait avoué, elle était complètement perdue, elle ne savait pas que faire. J'étais avec deux autres confrères et on lui a dit « il faut absolument que vous choisissiez un avocat ». Et elle a dit « non, j'ai pas besoin d'avocat, mon fils n'a pas besoin d'avocat parce qu'il est innocent ». Et on a réussi à la convaincre qu'il fallait trouver un avocat. Et alors nous étions deux et mon camarade Paul-Claude Innocenzi a suggéré qu'on aille voir Maître Polak, qui était le plus grand ténor du barreau national
à Paris, et
qui habitait Marseille. Donc on s'est rendu chez Maître Polak, mais Maître Polak plaidait à Lyon ce jour-là, donc il n'était pas là. Et j'ai suggéré à ce moment-là d'aller voir Maître Lombard.
Pourquoi c'est ce dites-vous qu'on a que fait. Vous avez des regrets, Roger?
Oh, j'ai des regrets parce que la suite a prouvé que l'enquête a été bien faite, oui, l'enquête de police, mais l'enquête, la partie judiciaire a été mal faite et mal contrée par les avocats. Et puis surtout après, il y a eu le procès. Ranucci a été, je le dis, je l'ai dit depuis 30 ans, presque, a été mal défendu. Et donc, comme je suis à l'origine de la recherche de sa défense, je me sens quelque part coupable de la mort de Ranucci, même si je suis persuadé que Ranucci était coupable.
Roger, vous ne l'avez jamais caché, vous êtes convaincu que Ranucci était coupable?
Absolument. Absolument. Le seul moment où j'ai eu des doutes, c'est lorsque Gilles Perrault est venu à Marseille pour préparer son bouquin, qu'il m'a interrogé. Bon, à ce moment-là, je lui ai dit ce que je viens de vous dire, je lui ai raconté ce qui s'était passé, ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Et ensuite, dans son bouquin, quand j'ai lu son bouquin, il y a des choses qui m'ont paru bizarres et j'ai eu le doute. J'ai eu le doute d'un bout à l'autre de son livre, mais aujourd'hui je n'ai plus de doute du tout.
La voiture, par exemple, ça, le fait que le gamin parle, à vous en plus, hein, d'une Simca 1100 et que Ranucci est un coupé 403 Peugeot, ça ne vous trouble pas ?
Non, parce qu'en fait, le Jean-Baptiste, on lui demande qu'est-ce que c'était comme voiture, on lui cite des marques de voitures. On lui cite Citroën, Renault, Simca. Il dit oui, c'est Simca. Et son père dit, mon fils connaît bien les voitures. Je pense que là aussi, les journalistes ont eu peut-être une part importante qui a fait modifier l'enquête en suggérant aux petits que c'était une Simca.
D'accord, c'est comme ça que vous voyez les choses. Alors, ce qui est très convaincant de sa culpabilité, évidemment, c'est qu'il désigne l'endroit où se trouve le couteau et que, en gros, on le retrouve là où il l'avait dit. Ça, c'est incontestable.
Ah, c'est incontestable. Et puis, non, mais il y a d'autres éléments qui prouvent sa culpabilité. Mais le fait que le couteau, le fait de la champignonnière, tout ça, c'est très accablant, complètement accablant pour Ranucci. Mais à l'inverse, comme vous l'avez dit, les témoignages à géométrie variable des époux Aubert, et puis les multiples lacunes de l'appareil judiciaire font que Ranucci aurait dû au moins avoir le bénéfice du doute.
Les époux Aubert, ils sont extrêmement agaçants. Enfin, ils sont presque irresponsables. On change pas trois fois de témoignage. On est plus crédible après.
Eh oui, sauf que ce sont eux que les policiers ont cru. Je ne dis pas que si les policiers avaient poursuivi leur enquête, ils auraient peut-être trouvé le véritable meurtrier. C'est possible. Mais ils sont restés bloqués sur Ranucci avec les témoignages des époux Aubert.
On a l'impression quand même, dans cette enquête, même si je suis d'accord avec vous, les éléments qui condamnent Ranucci sont là, ils sont patents, et il y a une logique à cette condamnation. Mais enfin, on a quand même l'impression que l'instruction de la juge Di Marino, j'ai pas cité son nom dans le récit, a été faite sur le principe, il y a des aveux, je m'intéresse pas au reste, quoi.
Mais complètement. Non seulement il y a des aveux, et elle ne s'est intéressait pas à autre chose, mais tout à l'heure vous avez parlé de reconstitution, il n'y a pas eu de reconstitution réelle. Ils sont partis de l'hôtel de police, ils sont passés un passage éclair, rapide à la cité Sainte-Agnès, ils n'ont même pas repéré l'endroit où la petite avait été enlevée. Ensuite, ils sont partis à la pomme, là où avait eu l'accident, et il n'y a pas eu de reconstitution réelle. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, elle a sorti à un moment donné la photo de la petite Maria Dolores, et Ranucci s'est effondré, mais il n'a jamais dit que c'était moi lors de la reconstitution. Et puis, la reconstitution s'est arrêtée à ça.
Les aveux, Roger Ardouin, on va pas cacher les choses, c'était une époque aussi, vous étiez très amis avec tous les flics du coin.
Donc
vous n'allez pas me dire ici qu'ils ont interrogé Ranucci à coups de bottins téléphoniques. Mais est-ce qu'on peut envisager que ces aveux lui aient été extorqués ?
Psychologiquement, peut-être. Psychologiquement, peut-être, parce que c'est lui qui a tracé le dessin de la cité Sainte-Agnès, mais c'est peut-être sur les recommandations des deux policiers qu'il interrogeait, puisqu'il y a, ça a été un des éléments de la culpabilité. Les aveux extorqués, non, il n'y a pas eu, et puis contrairement à ce que Ranucci a dit, il n'avait pas été battu, il n'a rien, fatigué psychologiquement, sûrement. Après une garde à vue très longue, et puis le passage dans les locaux de la police.
Le fameux dîner, maintenant, chez Paul Lombard, vous y étiez, vous, à ce fameux dîner?
Ah oui.
C'est un moment incroyable, c'est pas courant comme épisode, ça.
Je n'ai jamais vu ni entendu un avocat me demander ce qu'il devait faire dans une affaire. Mais là, en plus, Paul avait organisé ce dîner avec le forcené et six journalistes. Mais à la fin du repas, après qu'on ait parlé de l'affaire, en long, en large et en travers, il nous a posé la question, à votre avis, qu'est-ce que je dois plaider ? Et alors, nous étions 6, et il y en a 4 qui ont dit, mais la culpabilité, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et 2 autres ont dit, non, il faut plaider l'innocence. Et Paul Lombard a dit, non, non, on va plaider l'innocence. Et puis, c'est ce que Ranucci veut. Il veut plaider l'innocence.
Mmh. Donc au fond, il est aussi enfermé par la volonté de Ranucci.
Ah oui, complètement. Et il y a aussi autre chose dont on n'a pas parlé là, dans cette émission, c'est aussi la personnalité de Ranucci. Frédéric Potcher en a parlé tout à l'heure, vous avez diffusé son portrait, mais sa personnalité était très particulière, et ça aussi, ça aurait dû jouer au niveau du procès.
Comme circonstance atténuante, c'était un garçon très introverti, qui sans doute avait une relation un peu complexe avec sa maman, tout un tas de choses dont je n'ai pas parlé, parce qu'en vérité, on n'est sûr de rien. Mais c'est ça un peu l'idée d'un garçon un peu coincé par une mère tentaculaire et castratrice.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, un garçon qui était sans doute un peu immature, bien qu'il il avait 20 ans, il avait un bon métier, il avait une copine, il a même eu plusieurs copines, quoi que certains aient dit, mais c'était un garçon un peu immature.
Mmh. Je vous remercie beaucoup Roger Ardoin d'avoir accepté de revenir sur Europe 1 un certain nombre d'années après votre départ de cette maison. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, peut-être que nous aurons l'occasion de reparler d'une ou deux affaires.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.